Tendance première,
Véronique Thiberghien.
Et notre invitée Isabelle Taquin. Bonjour Isabelle.
Bonjour Véronique.
Vous êtes psychothérapeute et vous venez nous parler aujourd'hui de mindful eating.
Oui.
Manger en pleine conscience, c'est ça?
Exactement.
On peut
oui,
traduire.
Oui.
Parce que vous allez donner des conférences et des la possibilité aux personnes aussi de se former ou de se reformer, de réapprendre à manger en pleine conscience. Et cette pleine conscience de la nourriture et de cette action de manger, elle vient de du docteur Ian Chosenbase et Cher Wilkins. Et ce cycle qu'il proposait déjà à l'époque, Mindful Eating, parlait déjà de tout cela. Ça vient d'où exactement, cette idée de parler de pleine conscience de la nourriture?
En fait, donc Jan Chosenbase, elle est pédiatre au départ, oui, aux États-Unis. Alors c'est un secret pour personne, il y a énormément de problèmes d'obésité déjà chez les enfants. Et donc elle se posait des questions sur l'alimentation et les mécanismes autour de l'alimentation. À côté de cela, elle est une pratiquante du zen, donc bouddhisme zen, de la méditation. Et elle a fait un mix de sa préoccupation et de la méditation.
C'est ça.
En voyant que la méditation amenait une conscience corporelle intéressante pour gérer l'alimentation. Mmh. Et aussi une conscience émotionnelle. Puisque les deux, la difficulté autour de l'alimentation est souvent une difficulté émotionnelle. Mmh. Même si ça ne l'est pas au départ, ça le devient parce que les personnes sont tellement, critiques vis-à-vis d'elles-mêmes, tellement désespérées quand elles font des régimes, que finalement la dimension émotionnelle s'agrandit.
Il n'y a même pas besoin de faire des régimes pour avoir des sentiments négatifs quand on mange, alors que manger devrait être justement un acte de plaisir, tout en étant un acte aussi de survie pour chaque être humain, mais devrait d'abord être du plaisir. Il y a souvent de la culpabilité par rapport à ce qu'on mange, même si on n'en mange pas régulièrement, mais il suffit de manger un hamburger une fois et puis on se dit, bah, on sait bien que c'est pas bon, même si on essaye de laisser ce sentiment de
oui,
côté, il est quand même présent. Il y a aussi parfois de l'angoisse parce qu'on m'a dit que ce que je mangeais n'était pas forcément bon. Donc il n'y a même pas que dans les régimes, c'est un
non,
peu tout le temps.
Effectivement, il n'y a pas que dans les régimes, il y a toutes ces prescriptions qu'on reçoit maintenant, tous des messages. Il suffit de voir, c'est peut-être un peu caricatural, mais quand on met un groupe de femmes ensemble, il y en a une qui apporte un gâteau. La discussion va commencer sur les régimes parfois, ou sur est-ce que je vais oser manger ça, c'est quand même pas très bon. Et effectivement, on est envahi de messages, on est dans une société très paradoxale qui en même temps nous pousse à manger sans arrêt, des proportions de plus en plus grandes, et en même temps pousse à un culte de la minceur. Mmh. Et donc on est dans ce paradoxe et on se débat. Sans arrêt. Oui.
Du coup, prendre conscience de ce que l'on mange et manger en pleine conscience, c'est quelque chose que on évite presque de faire à midi quand on mange au travail ou même parfois à la maison. On est en train de regarder la télé, on regarde l'ordinateur, on est en train de travailler en même temps. On fait des choses finalement, des activités pendant qu'on mange qui nous empêchent d'être dans la pleine conscience. Comme si quelque part on avait de toute façon pas envie de trop penser à ce qu'on est en train de faire.
Oui, peut-être, on ne prend pas le temps. Je réfléchis à votre question, enfin à ce que vous dites. Il y a comme une pression de temps aussi, s'occuper. Et puis peut-être on a perdu l'idée de la dégustation et d'un vrai plaisir, entre autres parce qu'avec toutes ces restrictions qu'on nous impose, est-ce qu'on mange vraiment ce qu'on a envie de manger?
Ah oui.
Ou est-ce qu'on mange ce qu'on pense qu'il faut manger?
Déjà.
Alors, ça, c'est déjà une partie, et donc ça a déjà moins d'intérêt. Ou alors, je me permets de manger ce que je ne peux pas manger, et je le mange vite. Mmh. Et finalement, je suis plus avec un combat mental qui m'éloigne de ce que j'ai en bouche. Mmh.
On a des réactions, hein, évidemment, par rapport à ça. Nombreuses sont les personnes qui mangent devant l'ordinateur, surtout quand elles sont au travail. La problématique du temps, effectivement, est soulevée par plusieurs personnes aussi, qui soit la soulignent par rapport à leur travail, soit la soulignent par rapport à l'école, où elles notent que leurs enfants n'ont en général que 20 minutes pour manger, ce qui, pour un enfant, est parfois un petit peu court, hein, quand même, pour bien apprécier. Et que donc, du coup, on ne les habitue pas non plus à prendre bien le temps de manger. Il faut vite, vite en fournir, nous dit cette personne. Et puis, pas mal de questions aussi sur comment faire, finalement, pour réapprendre à manger en pleine conscience et éviter parfois certaines dérives alimentaires. Parce que c'est ça la problématique, c'est que beaucoup de dérives alimentaires aujourd'hui, sans être forcément pathologiques et sans nous emmener dans un circuit hospitalier, mais certaines dérives que nous avons sont parfois issues simplement de cela, de ne pas prendre conscience de ce qu'on mange. Le grignotage, par exemple, ne répond pas forcément à un sentiment de faim.
Oui, il y a beaucoup de souffrances liées à l'alimentation, parce que la manière dont on mange amène régulièrement une insatisfaction corporelle. Je dirais qu'en général, les personnes qui n'ont pas de problème de ligne, comme on dit, souffrent peu. Alors, il y a ceux qui ont peur de perdre la ligne. Hein, donc, dans les groupes, on va voir des personnes de toutes les corpulences. Et... oui, qui sont dans cette souffrance. J'ai perdu le fil de mes idées.
Vous dites, on n'est pas forcément que satisfait de ce qu'on est, même quand on est mince, quoi.
Oui, oui, oui. On a tellement peur de grossir que, de toute façon, on est en bagarre. Et par rapport à l'ordinateur, par exemple, je pense qu'il est important aussi de ne pas retomber dans une nouvelle orthodoxie, dans de nouveaux interdits. Bien sûr, il y a un entraînement quand on fait les cycles de manger en pleine conscience. On va s'entraîner, donc il y aura des moments, on va prendre peut-être pendant 10 minutes, on va manger peut-être dans le silence. Au départ, on va le faire seul, pour réapprendre à goûter ce qu'on mange, ralentir. Alors, un petit truc peut-être pour les auditeurs, pour ralentir, parce que beaucoup disent, mais je sais que je dois manger plus lentement, mais je n'y arrive pas.
Oui.
Eh bien, un petit truc, c'est quand vous mettez une bouchée en bouche, vous déposez vos couverts, vous déposez le sandwich, vous mastiquez, vous attendez, vous observez ce qui se passe dans votre bouche, les goûts, comment les goûts évoluent. Quand vous n'avez plus rien en bouche, vous respirez 2-3 fois, vous reprenez les couverts ou le sandwich. Et automatiquement, ça va ralentir le rythme. Alors, vous allez découvrir que peut-être vous allez le faire 2 fois, et puis la troisième bouchée, elle va revenir automatiquement. Hein, donc, en pleine conscience, on parle énormément des automatismes. Mmh. Ça va plus vite que l'éclair. Il y a quelqu'un qui témoignait, qui disait, au fond, moi je prends 2 barres de chocolat quand je vais travailler. Et quand j'ai fait l'exercice une bouchée à la fois, alors j'ai coupé ma première barre en petits morceaux, j'ai dégusté, j'avais beaucoup de plaisir. Et puis en fait, j'étais appelée par un collègue et c'est seulement en fin de journée que j'ai réalisé que j'avais pas mangé la deuxième barre. Et elle avait pas eu la frustration. Elle nous dit, d'habitude, ces 2 barres de chocolat, je les mange, mais presque comme une revendication. Et ça fait déjà une grosse différence.
On a Christine qui a réagi aussi d'ailleurs, elle dit, il y en a des choses à dire sur la faim, celle de l'estomac, des cellules, du cerveau, du cœur, des yeux, du nez. Certains disent qu'il y en a 7, c'est assez rare que nous ayons vraiment faim, que notre corps soit vraiment en manque, même légère, de nourriture ou d'eau. Je vous propose d'y revenir juste après ceci.
Tendance première.
Avec vos messages qui nous arrivent toujours sur Manger en pleine conscience au 02 737 26 06, par SMS également au 60 31 75 centimes le message, en allant sur la page Facebook de la Première aussi, ou nous envoyer un courriel à tendancepremiere@rtbf.be. L'ASBL Émergence, qui a pour objectif de contribuer à l'émergence d'un monde plus altruiste, plus solidaire, plus conscient, organise régulièrement évidemment des journées émergence, des conférences, des cycles également, et c'est donc tout naturellement qu'on vous y retrouve, Isabelle Taquin, psychothérapeute, pour un cycle qui aura lieu auprès de l'ASBL Émergence. On peut déjà donner les dates?
En janvier, être sur le site d'ici quelques jours.
On ira vite les voir, parce qu'à mon avis, vous aurez du monde. Alors, juste une chose, on a parlé de mincir tout à l'heure, n'induisons pas les auditeurs en erreur. Il ne s'agit pas de participer à ces cycles dans l'optique de mincir, parce que c'est pas du tout l'optique de la mindfulness.
On peut vraiment pas promettre aux personnes qu'elles vont maigrir.
C'est pas l'objectif.
Non,
premier.
Et ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment retrouver la paix avec la nourriture, son corps et l'alimentation. Alors. Évidemment, parfois, il y aura des pertes de poids. Les premières recherches le montrent, mais ça sera vraiment en lien avec la pratique. Donc, il ne suffit pas de venir s'installer 8 séances pendant 2h30. Il y a vraiment toute une pratique, des exercices à faire à la maison.
Oui.
Et ce que j'observe, c'est que parfois, les personnes ont besoin de faire un deuxième cycle.
Ah oui.
Si le premier cycle, on vient beaucoup avec ses peurs, ses appréhensions, il y a presque comme une désintégration de cette propagande autour de la nourriture à faire. C'est peut-être des mots forts, mais on est dans une société qui nous pousse sans arrêt. Et donc, il y a toute cette remise en question des messages du marketing sur les produits sains, non sains, tout ça, sur la restriction cognitive. Il y a une grande peur aussi de quitter les régimes pour certains. Donc voilà, le premier cycle va parfois apaiser les personnes. Et le deuxième cycle, ou la suite, parfois il y en a qui vont continuer par eux-mêmes. Là, les gens vont rentrer beaucoup plus dans la pratique pour certains.
Ça dure combien de temps un cycle ?
C'est 8 semaines.
8 semaines. Et qu'est-ce qu'on y fait ? On y mange ?
On y mange, oui. On fait des explorations comme régulièrement autour d'un raisin de Corinthe. Ça, ceux qui connaissent un peu la pleine conscience seront amusés avec ça. Mais on ne fait pas que manger des raisins de Corinthe. Mais on va manger. Je peux donner peut-être un petit exercice.
Hein.
J'entendais un auditeur qui parlait des 7 faims.
Oui.
Maintenant, Jan Chosen.
Christine, oui.
Oui, Jan Chosen B, c'est Charles Wilkins. Elles en identifient 9. Alors. Je vais vous dire un exemple, par exemple la faim des yeux. On peut vraiment être au bout, on est au restaurant, à la fin du repas, on n'a plus faim. Voilà, on a déjà bien mangé. Et puis il y a le chariot de pâtisserie qui passe et hop, soudainement on a faim. Ah. On a faim pour une pâtisserie. En fait, c'est ce qu'on va appeler la faim des yeux.
C'est ce qu'on ressent souvent, cette impression quand on passe devant une boulangerie. Et alors du coup, la fin de l'odorat, c'est quand on passe aussi devant la boulangerie
qui
a une bonne odeur.
Voilà, Louis, je suis au cinéma, évidemment, si on aime le pop-corn, si on n'aime pas ça, mais ça peut vraiment tout d'un coup provoquer une envie de pop-corn. Ou si j'entends quelqu'un parler d'un très bon restaurant, d'ailleurs, je vais saliver. Rien qu'en vous le disant, je suis en train de saliver d'ailleurs. Le toucher.
Ouais.
L'impression craquer des chips. En fait, il y a des personnes qui découvrent qu'elles aiment craquer quelque chose.
Ah oui.
Un petit truc, on peut mettre des petits bouts de carottes crues dans une soupe et on aura du croquant.
C'est exactement ce que nous dit Léa. Un truc pour être plus conscient de ce qu'on mange, nous dit-elle, ajouter dans les aliments liquides ou solides des aliments croquants. Ainsi, dans le fond de ma tasse de café, je mets des noisettes ou des amandes pour parfumer, des morceaux de fruits également. Et dans mes potages, j'ajoute des dés de légumes crus et croquants.
Voilà. Donc ça va sans doute jouer dans la fin du toucher. Alors, comme fin, il y a le goût, ça paraît assez évident. Puis, il y a la fin de l'estomac. La fin de l'estomac, c'est vraiment la fin physique. Et il y a aussi la fin du corps, des cellules qui est parfois plus difficile à identifier. La fin des cellules, on peut avoir une idée, c'est on n'a pas envie de manger la même chose en hiver et en été. C'est pas pour rien. On n'a pas les mêmes besoins énergétiques. Hein, donc, on va pas être attiré par un cassoulet toulousain quand il y a canicule. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ou bien quand on a été malade, si on a eu une gastro-entérite, quand on commence à se rétablir, il y a certains aliments, rien qu'à les entendre, ça pourrait faire remonter la nausée. Ça, c'est vraiment la fin du corps et des cellules.
Hein?
Et puis, la fin de l'esprit. Donc ça, c'est tout. Les prescriptions alimentaires vont amener beaucoup de faim de l'esprit. Donc je crois que j'ai
manger
envie de manger
5 fruits et légumes par jour,
voilà,
va nous donner
ça,
peut-être envie, à force de l'entendre, de manger des fruits et des légumes.
Donc, on va manger avec cette idée que c'est bien de manger une pomme.
Mm-hmm.
Alors, en plus, dans certains régimes, c'est 0 point. Il y en a qui reconnaîtront l'histoire. je vais manger une pomme. Alors que peut-être j'ai envie surtout de chocolat. Et donc, je mange ma pomme parce que je crois que j'ai faim, que j'ai cette faim-là. Et peut-être que je vais augmenter ma frustration.
Mm.
Et là, on arrive à la faim émotionnelle. Alors, la faim émotionnelle, c'est tout ce qui touche le cœur. Mais je ne me sens pas bien, je peux avoir envie de manger. Et c'est logique parce que la nourriture est un anesthésiant émotionnel naturel. Le problème, c'est quand ça devient la seule réponse. Et donc, dans les cycles de pleine conscience, on va aider les personnes à différencier les sensations de faim physique des sensations émotionnelles. Par exemple, l'anxiété a donne des sensations physiques très proches de la faim de l'estomac.
Ça fait beaucoup penser à la boulimie, à l'anorexie, à ces problématiques-là, où on ne parle que de la faim alimentaire, la faim de l'estomac, l'absence de faim aussi, mais où de plus en plus on essaye d'amener l'idée qu'on ne joue peut-être pas sur la bonne faim, et qu'on parle de plus en plus, par exemple, pour l'anorexie, d'une faim du cerveau, d'une faim de l'esprit.
Une faim de l'esprit, tout à fait. Là, les personnes qui sont en trouble alimentaire, quand on parle de boulimie, d'anorexie, les cycles de pleine conscience peuvent être tout à fait aidants. Pour les personnes qui souffrent d'anorexie, il faut qu'elles soient suffisamment stabilisées.
Oui, c'est ça. C'est pas un médicament, c'est pas thérapeutique, mais c'est un outil supplémentaire.
C'est un outil supplémentaire. Ça ne va pas remplacer les psychothérapies. Certaines personnes ont besoin de psychothérapie. Je ne veux pas qu'on sorte de l'émission en disant voilà, on a trouvé, ça va tout résoudre. Non. C'est une approche qui va suffire pour certaines personnes et pour d'autres, ce ne sera pas suffisant. Notamment parce que dans les problématiques d'obésité, il y a pas mal de personnes qui sont obèses, qui en fait ont une protection. Et si on leur enlève cette protection, ça va être trop difficile. Elles vont se sentir trop vulnérables et ça pourrait amener de graves problèmes. D'ailleurs, on le voit avec toute la chirurgie bariatrique, dont tous les bypass, les réductions d'estomac et tout ça, il y a des personnes qui maigrissent très vite. Elles pensaient que c'était leur rêve, et en fait, elles vont très mal après, et de plus en plus, on voit des décompensations psy, et donc, c'est pas à prendre à la légère.
Effectivement, et on va revenir aussi sur un message qui nous était arrivé par téléphone, celui de Michel qui disait que après un cancer de la mâchoire, qu'il n'avait plus de dents et de mandibule, beaucoup de difficultés à mastiquer. On a François qui réagit en disant pour votre auditeur, il y a d'excellentes diététiciennes dont c'est la profession et qui pourront très bien aider aussi à retrouver non seulement le plaisir de l'alimentation, savoir quel type d'alimentation, avoir une adaptation assez particulière, tout en gardant ce plaisir de manger, qui est aussi l'un des objectifs évidemment de la mindful eating, la conscience de manger avec plaisir et gourmandise.
Oui, voilà, et pour cet auditeur, vraiment je suis désolée pour lui, effectivement, retrouver du plaisir dans le goût sera indispensable, peut-être qu'au niveau du toucher, par exemple, parler de croquer, ça il ne pourra plus, mais alors privilégier les autres fins, ça peut être une voie. Et puis, dans les cycles de pleine conscience, on travaille aussi sur les émotions. Et donc, quand on est malade, quand on est stressé, quand on se sent mal, apprendre à observer ses émotions, rester avec elles, sans passer dans un automatisme, sera très précieux également.
On parle de plus en plus d'alimentation confort aussi, hein, des petites choses qu'on aime à grignoter dans certains moments et pas forcément des choses sucrées ou du chocolat. Vous parliez de quand on est malade, on se souvient de ce que nos mamans ou notre papa nous faisaient quand on était malade et ça reste des aliments qui suscitent chez nous une émotion particulière.
Tendance première, Véronique Thiberguer.
Nous avions le message d'Olivier qui parlait du fait d'avoir le temps de bien préparer à son aise ses trois repas principaux. Et puis on a eu, suite après, un autre message de Caroline qui nous expliquait qu'elle, lorsqu'elle préparait à manger, ben régulièrement, une fois qu'elle avait terminé, que tout était cuit, elle n'avait plus faim. Que sa faim était par contre passée.
Oui, c'est tout à fait possible. Déjà, quand on goûte les plats, en fait, on mange.
Oui, c'est vrai. Et parfois, on goûte beaucoup.
Donc, moi, je me souviens d'un repas de Noël où je m'étais lancée dans des grandes pâtisseries. Et au fond, quand j'ai tout mis à table, j'avais fini de manger. Bon, mais voilà, et pourquoi pas?
Moi, je me souviens du dernier gâteau qu'on a fait avec les enfants. On avait tellement mangé de pâtes qu'on n'avait plus assez pour le gâteau. Donc, de toute façon, on n'a pas mangé de gâteau.
De toute façon, on n'a plus faim. Voilà, c'est exactement ça. Alors, par rapport à avoir le temps de préparer à manger, Déjà, quand on prépare à manger, c'est vrai, on peut mettre de la conscience, hein, vraiment là, dans l'ici et maintenant. Être en pleine conscience, ça veut dire ben, je suis présent à ce que je fais. Maintenant, je ne voudrais pas créer de nouvelles culpabilités. Il est clair que des gens qui travaillent en plein, qui ont des enfants, leur dire maintenant, vous devez préparer avec conscience et application ce que vous allez manger, prendre le temps. On risque juste de rajouter une culpabilité. Par contre, se dire, mais même si vous mangez une lasagne de supermarché que vous avez tapée au four, si après vous la mangez, en observant, en prenant le temps, ben, c'est déjà rentrer dans la pleine conscience et peut-être que vous allez découvrir que vraiment, c'est pas très bon.
Ça, voilà.
Et que quand on mange des choses pas très bonnes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va chercher autre chose. Et puis encore autre chose. Et on additionne comme ça des tas de calories. Et la satisfaction n'est toujours pas là. Donc, l'idée de plaisir est importante. Moi, je dis souvent aux personnes, si vous voulez avoir un espoir de perdre du poids, ben, commencez par manger de très bonnes choses. Et prenez le temps de le goûter et vous verrez ce qui se passe. Et ce que souvent les personnes vont observer, c'est que d'abord le goût ne reste pas le même. À la cinquième bouchée, bon, voilà, ça n'a plus tout à fait la même saveur. Et puis que régulièrement, ils en mangent moins.
Je suis d'accord avec vous, c'est pas une nouvelle injonction de vie dans la nourriture, etc. Mais il y a quand même quelque chose qu'on a tous plus ou moins perdu. Et il suffit de voir que bon, on prend quelque chose à midi, par exemple, on le termine. Voilà. Et une fois qu'on a terminé, soit on se sent trop lourd, soit on a encore faim, mais on n'a pas essayé de savoir si justement notre niveau de satiété était atteint ou pas, parce que voilà, la quantité était là et on a mangé très vite. Donc, je suis d'accord avec vous, ça ne doit pas être une injonction, mais est-ce que le fait de quand même de temps en temps se forcer un peu à prendre ce temps-là, que vous l'avez dit, prendre le temps de déposer ses couverts, de bien apprécier ce qu'on a en bouche, d'y réfléchir, la texture, les odeurs, les saveurs que l'on a, c'est pas aussi permettre à notre corps de mieux communiquer ce niveau à un moment donné.
Oui, oui, moi, j'avais réagi par rapport à la préparation du repas.
Oui, tout à fait.
Hein.
Oui, oui.
Alors, pendant le repas, si prendre le temps permet de mieux repérer la satiété. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne le sentent plus du tout, ce niveau de satiété. C'est perdu. C'est perdu parce que...
Perdu à tout jamais?
Non, on peut le retrouver. Mais après des années où on dit vous devez manger à telle heure ou ne pas manger à telle heure, où on contrarie finalement ces sensations de faim, mais on ne sait plus les reconnaître. Hein, donc à travers les exercices qu'on fait, c'est en partie ça qu'on vit, c'est retrouver les sensations de satiété, les sensations de remplissage également. Donc par exemple, on va questionner son estomac, on va dire tiens, mon estomac, qu'est-ce que tu as encore envie de manger? Est-ce que tu as envie de manger? Combien? Et c'est étonnant comment on trouve des réponses. Ça paraît pourtant très drôle, hein, dire « tiens, mon estomac », et le regarder. Eh bien oui, il va vous donner des réponses petit à petit, au fur et à mesure. Alors, il n'y a pas que le niveau de satiété, il y a aussi le niveau de satisfaction. Donc, on peut très bien être arrivé à satiété, mais ne pas être satisfait parce qu'on n'a pas eu assez de plaisir. Comme on peut très bien avoir atteint le niveau de satisfaction et encore avoir faim. Et on va apprendre à distinguer ces deux niveaux-là.
Il y a aussi quand même une question par rapport à ce niveau-là. Il n'est pas forcément le même chez les personnes.
Non.
Donc, il faut que ce soit aussi quelque chose qui nous est personnel, qu'on doit chercher personnellement, qui ne répond pas à une règle en particulier.
Exactement.
Il peut aussi évoluer au fur et à mesure du temps, de la journée. Vous l'avez dit, les saisons aussi, on n'a pas les mêmes besoins.
Les saisons, par exemple... Si on a fait un gueuleton la veille au soir, peut-être qu'au petit déjeuner, on n'aura pas faim, alors que d'habitude, on a faim. Ça va influencer, évidemment. Hein, quand on a dépassé son niveau de satiété, si on est attentif au niveau de faim, mais on va réaliser qu'on a faim plus tard, hein, par exemple. Mais c'est propre à chacun. Moi, je serais incapable de vous dire quand vous avez faim ou quand vous avez eu assez. Et donc, pour les enfants, ça va être important. Vous savez, les enfants, jusqu'à 5 ans, ils sont dans une régulation naturelle. On est parfois étonnés. Ils adorent quelque chose, ils mangent, et puis tout d'un coup, ils font « c'est fini ». Et quand on les oblige à manger, on commence à perturber la régulation naturelle. Alors, c'est vrai que notre corps, il a été programmé pour faire face à la famine. Or, maintenant, on est face à l'abondance. Et donc, on doit apprendre à manger face à cette abondance.
Et justement, Christelle a réagi en disant « Vous parlez des odeurs de la boulangerie qui suscite, qui donne l'envie ou en tout cas l'impression d'avoir faim. Faut-il céder à cette faim ? Vous ne l'avez pas dit. »
Ah ! faut-il ou ne faut-il pas?
Oui. Voilà. Encore une injonction.
Voilà. Oui, c'est difficile de sortir de ce oui. système d'injonction. Ben, on peut, évidemment qu'on peut. Mais après, si je me dis, ah, c'est mal, et que je m'empêche de manger plus tard, ça va commencer à dérégler le système. Si on mange, si on a envie de manger, pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas? Ce qui est un problème, c'est quand on doit manger alors que ça n'est vraiment pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'envie de manger? Si je suis passée devant la boulangerie, je mange un gâteau, peut-être que je n'ai pas faim le soir. Est-ce que je dois manger alors? Est-ce que je dois me forcer parce que les enfants doivent manger? J'ai déjà entendu ça.
Ah bah oui, ils doivent manger.
Je ne peux pas ne pas manger parce que les enfants mangent. Peut-être on peut s'asseoir près d'eux et leur expliquer qu'on n'a pas faim. Et ils apprendront aussi qu'ils peuvent respecter cela.
C'est passionnant, manger en pleine conscience. Isabelle Taquet, on pourrait poursuivre encore des heures.
Ah oui.
En tout cas, les cycles, eux, commenceront auprès de l'ASBL Émergence et seront sur le site de l'ASBL Émergence d'ici quelques jours. Ce sera au mois de janvier, cycle de Mindful Eating. Merci beaucoup, Isabelle Taquet, d'être venue dans cette émission.
Voilà, ben merci de m'avoir invitée.
Belle journée.
Tendance première.